ce que je propose maintenant, c'est qu'on puisse faire une transition vers la dernière présentation, puisque on sent qu'il y a un lien entre la croissance du PIB et la grande accélération aussi. Du coup, Philippe Ramos, est-ce que tu peux donc essayer de nous expliquer un peu ces éléments-là et le point de départ, donc de quoi on parle quand on parle de croissance et du PIB? C'est quoi ce PIB? C'est quoi la notion de croissance qui est associée?
Alors David, je te propose de faire tout d'abord un petit peu d'histoire. Donc peut-être préciser que le PIB a été créé il y a presque 100 ans maintenant, hein, dans les années 30. C'est le Congrès américain qui a demandé à Simon Kuznets, un économiste, d'évaluer les effets de la crise de 29 sur l'activité. Et donc il va élaborer un outil statistique, ce fameux PIB, produit intérieur brut. Les États-Unis vont donc l'utiliser assez rapidement dans les années 30. Et puis ça sera utilisé quasiment qu'aux États-Unis. Il y aura les accords de Bretton Woods, avec Keynes comme principal protagoniste, qui en 1944, c'est les accords de Bretton Woods, va mettre en place ce qu'on appelle le système monétaire international et va se baser notamment sur ce PIB pour accélérer, enfin, va accélérer la diffusion de cet indicateur auprès des 44 nations alliées de ce système monétaire international. Ce qui fait que la France va l'utiliser donc très rapidement aussi, enfin, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis, comme vous le savez, le PIB est devenu l'indicateur phare pour mesurer le développement d'une société. Alors, après ce petit rappel historique, on va peut-être définir ce qu'est le PIB, produit intérieur brut, encore une fois. Donc, c'est un agrégat économique qui est censé représenter l'activité de production des unités productrices résidentes d'un pays, résidentes au sens domestique, c'est sur le territoire. Il y a plusieurs façons de le calculer. Je vais vous en donner une qui est la plus simple, à mon sens, et qui vient de l'INSEE. Je la cite et après je l'explique. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées brutes des différentes branches d'activité, augmentées des impôts, moins les subventions sur les produits. Pour simplifier, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées de chaque agent économique sur le territoire. Dit autrement, c'est la différence entre la valeur de la production, on va dire le chiffre d'affaires, c'est plus simple, et le coût des consommations intermédiaires nécessaires à la production, on va dire charge, parce que c'est plus simple. Donc c'est chiffre d'affaires moins charge, alors retraité des subventions et des impôts de chaque agent économique. Très très concrètement, pour un boulanger, c'est le prix de la baguette, moins ce qu'il a utilisé comme ressource pour la faire, farine ou énergie, qui sont considérées comme des richesses produites par d'autres agents économiques. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça c'est le PIB, je vais dire, en valeur. En réalité, ce qu'on calcule, nous, pour avoir la croissance, c'est un PIB à prix constant, c'est-à-dire qu'on essaye de déflater, enfin, on déflate le PIB, on essaye de ne pas tenir compte de l'inflation. Et ce PIB déflaté, ou PIB en volume, ou PIB réel, c'est justement ce qu'on appelle la croissance économique du PIB. Quand c'est négatif, on parle de récession. Alors, il faut bien noter que le PIB mesure la richesse produite sur une période, une année ou un trimestre, hein, en général. Donc, c'est un indicateur de flux et non de stock. Et j'y reviendrai à la fin de la présentation. Donc, voilà un rappel bref de son mode de calcul. Il est utilisé, comme vous le savez, par tous les pays. En France, mais partout ailleurs encore une fois, c'est l'outil principal des décideurs politiques pour orienter leurs choix et leurs stratégies. C'est grâce à ça qu'on détermine le budget pour financer les dépenses publiques telles que la santé, l'éducation, la retraite, la transition écologique, c'est important. On dit d'ailleurs répartir les fruits de la croissance. Donc c'est aussi un enjeu budgétaire. C'est évidemment l'instrument de référence, comme je vous l'ai dit, pour comparer la richesse entre tous les pays. Hein, c'est ce qui sert d'élément de comparaison entre la zone euro, par exemple, et les États-Unis. Et c'est surtout, enfin, c'est aussi et surtout un élément qui détermine si on peut être présent ou pas à certaines réunions géopolitiques comme le G7 ou le G20. Voilà pourquoi, si un pays décide unilatéralement de ne plus poursuivre cet objectif de croissance, ça a des conséquences. Alors, je tenais à faire ces précisions parce qu'en fait, la croissance du PIB, la croissance ou le PIB, ça n'est pas qu'un enjeu économique ou comptable. Il y a derrière ça des enjeux budgétaires et aussi des enjeux géopolitiques. Donc voilà aussi pourquoi, je vais pas excuser nos gouvernements successifs, mais voilà aussi pourquoi c'est pas si simple d'abandonner ce totem qu'est la croissance du PIB.
D'accord, tu disais que c'est un moyen qui est à disposition pour financer les dépenses publiques sur la santé et l'éducation. Il y a quand même pas mal de controverses autour du PIB. J'ai eu l'impression quand même dans la littérature, dans les débats, d'entendre que la croissance du PIB n'améliorait pas forcément les questions de santé publique. Par exemple, le fait de vendre des antidépresseurs, des anxiolytiques n'améliore pas forcément la santé à part entière. On parle du PIB comme un réducteur des inégalités. Somme toute, il y a toujours eu des inégalités et les inégalités sont croissantes. Donc, c'est deux exemples parmi tant d'autres, mais quel regard critique au pluriel peut-on avoir de ce PIB? Et finalement, est-ce que ces critiques sont là récentes ou est-ce qu'elles sont bien plus anciennes?
Alors, elles sont très anciennes en réalité, enfin, elles sont très anciennes, elles datent d'une bonne cinquantaine d'années. Mais avant de faire un état des lieux, si je puis dire, historique, effectivement, je voudrais rappeler que le PIB est très imparfait. Il a plein de limites. Alors, la première limite, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que le PIB ne mesure qu'une partie de la production économique. Je vous donne quelques exemples. Le travail non rémunéré, comme le travail domestique, hein, le ménage ou s'occuper de ses enfants, n'est pas pris en compte dans le PIB. Il faut noter ici la vision patriarcale du reste du PIB, hein, puisque ces tâches sont en général assurées par les femmes, et ça n'est pas pris en compte dans le PIB, alors que on va dire que ça produit énormément de valeur. De même pour le travail bénévole, ça n'est pas pris en compte puisqu'il n'y a pas de rémunération ni de contrepartie. Il y a aussi tout ce qu'on produit pour soi-même, hein, le potager, le gâteau fait maison, le verger, cette production qui pourtant génère des biens et génératrice également de bien-être, n'est pas pris en compte. Il y a évidemment la production non déclarée, le travail au noir, des choses comme ça. Vous allez me dire, c'est normal. Sauf que je vous tiens juste à rappeler qu'il y a une notion de moralité quelque part derrière tout ça. Je vous prends un exemple très simple. La vente du cannabis, elle n'est pas autorisée, comme vous le savez, en France. Elle l'est aux États-Unis et dans d'autres pays. Eh bien, parce que c'est monétisé et marchandisé, si je puis dire, eh bien, c'est pris en compte dans le calcul du PIB aux États-Unis. Deuxième grande limite du PIB, il y a toujours une valeur, enfin, ce qu'on appelle une valeur ou un prix de marché. En effet, pour calculer le PIB, on multiplie les volumes par un prix. La première limite, c'est qu'il y a des prix qui ne sont pas forcément des prix de marché. Je pense aux prix administrés, aux prix contrôlés, aux produits subventionnés. Ces prix-là ne sont pas des vrais prix de marché et ça influence la valeur et donc le calcul du PIB. La deuxième grande limite, qui est pour moi beaucoup plus importante, c'est qu'il y a des services qui n'ont pas de prix de marché, encore une fois, et qui sont pourtant très importants. Je pense notamment aux services publics, comme la santé et l'éducation. Et en fait, comme ils ne sont pas valorisés à un prix de marché, on va utiliser quand même une méthode pour en tenir compte, qui est la méthode dite des inputs, où on prend le coût des facteurs de production. Sauf que cette méthode-là suppose que ces services publics ne dégagent pas de profit. On en ignore aussi les gains de productivité ou les améliorations de services. La réalité, c'est qu'en fait, un pays qui opte pour une fourniture publique de la majeure partie de ses services de santé, l'éducation aussi, comme la France, apparaîtra moins riche, toutes choses égales par ailleurs, qu'un pays où ces services sont assurés et valorisés par le marché. Je pense aux États-Unis, évidemment, ou à l'Angleterre, où une partie des services de santé et d'éducation sont privatisés. Le PIB ne tient pas non plus compte de la qualité des biens et services, c'est-à-dire qu'à prix égal, un bien et service sera comptabilisé de la même manière dans le PIB, alors qu'un bien peut être très, très déplorable, avoir des effets néfastes sur l'environnement et même supposer un remplacement récurrent. Alors, encore une fois, seuls les prix et les quantités comptent. Troisième grande limite du PIB, c'est qu'il ne tient pas compte des contributions gratuites de la nature. Pour vous donner deux grands exemples, il y a d'abord tous les services rendus gratuitement par les écosystèmes, hein, comme la photosynthèse, la pollinisation, la régulation du climat par les forêts et les océans. Toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte dans le PIB, alors que c'est assez essentiel, évidemment, dans notre vie au quotidien. Ça ne tient pas compte non plus de l'épuisement des ressources non renouvelables, comme les énergies fossiles, on en a parlé, hein, pétrole, charbon, qui sont là grâce au travail de la Terre depuis des millions d'années. En réalité, ce qui est calculé dans le PIB, ce n'est pas le fait qu'on prenne ces ressources à la Terre, si je puis dire, hein, parce qu'on les achète à zéro d'une certaine manière, c'est le coût d'extraction. Le fait est que comme le PIB n'accorde aucun prix à ces services gratuits ou à la disparition de ces actifs non renouvelables, eh bien, en réalité, il n'y a pas de coût privé ou collectif et c'est assez dangereux. Enfin, voilà, dans le sens où le PIB n'est pas du tout impacté par le fait qu'on détruise le vivant. En parlant du vivant, justement, il ne tient pas compte justement de la destruction du vivant, ce qu'on appelle aussi les externalités négatives en économie. Je vais vous donner un exemple que Génération Écologie connaît bien. Un agriculteur, par exemple, qui utiliserait des néonicotinoïdes, qui tue les abeilles, comme vous le savez, ne supporterait pas le coût environnemental. C'est considéré comme une externalité négative dans le sens où ce dégât causé par cet agent économique qui est l'agriculteur, c'est pas lui qui en supporte le coût, c'est la société. Donc voilà, le mode de calcul du PIB ne tient pas compte de cette destruction du vivant, de ces dégâts environnementaux ou de ces dégâts humains, ou pas suffisamment compte. Je vais vous reprendre encore un autre exemple. Un embouteillage, par exemple, je pense que vous avez déjà entendu parler de cet exemple, est plutôt bon pour le PIB, aussi bizarre que ça puisse paraître, quand bien même ça fait des dégâts sur l'environnement, parce qu'on consomme du pétrole, on utilise la voiture qui va être amenée à être remplacée, on paye une assurance, on a potentiellement des pépins mécaniques, etc. À l'inverse, une personne qui voudrait faire du vélo à la place de la voiture, justement, va faire baisser le PIB parce qu'il ne consomme pas de carburant, parce qu'il ne paye pas de parking, etc., etc. Alors que lui, pour le coup, ne pollue pas et bénéficie d'avantages collatéraux sur sa santé et sur celle des autres. Pour vous donner juste un exemple, un grand gestionnaire d'actifs, le britannique Schroders, a essayé de mettre un prix à cette destruction du vivant. Lui, il parle d'externalité négative. Eh bien, le résultat est sans appel. Sur les 9000 entreprises cotées dans le monde qui généraient, c'était en 2019, je crois, 4000 milliards de dollars, eh bien, l'impact négatif est de 2000 milliards de dollars. Donc, c'est dire l'impact au-delà du chiffre lui-même. Voilà, c'est évidemment pas neutre. Et en réalité, si on refacturait la destruction du vivant à ces entreprises, eh bien, un tiers d'entre elles, deviendrait déficitaire.
Ça fait déjà pas mal de critiques qu'on porte au PIB. Mais qu'est-ce qu'il dit au juste aussi sur le bien-être d'une société ? Est-ce qu'il apporte des éléments concrets là-dessus ? Et finalement, je reviens aussi à la question que je te posais au début, est-ce que ces critiques en cumulé sont récentes ou est-ce que tu peux nous préciser à partir de quel moment elles ont commencé à apparaître ?
Alors, malheureusement, le PIB ne dit rien en fait sur le bien-être d'une société, hein. Il dit rien sur la répartition des richesses, sur les inégalités sociales. Le PIB ne dit rien non plus sur les activités qui seraient utiles et les activités qui ne seraient pas utiles. Ce qui compte, c'est que ça rapporte de l'argent, si je puis dire. Je pense aux activités utiles comme la médecine, évidemment, on le sait encore plus en ce moment, et les activités néfastes comme les plateformes téléphoniques, la publicité, etc. Il dit rien non plus sur la qualité des institutions d'un pays, l'ouverture démocratique, les libertés publiques, les conditions de travail. Il dit rien de l'éducation d'un pays. Bref, il ne dit pas grand-chose en réalité de ce qui fait qu'un pays arrive à convertir de la croissance en bien-être. Alors, Kuznets disait lui-même que c'est qu'une convention comptable. Et après lui, donc, d'autres ont été un peu plus verts en termes de critiques. Je vais commencer d'abord par Bob Kennedy, qui en mars 68 disait « Notre PIB comprend aussi la pollution de l'air, la publicité pour les cigarettes et les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur les routes. En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. » Je pense que c'est assez clair. Ça a été évidemment, remis scientifiquement au goût du jour, si je puis dire, par le fameux rapport Meadows, en 72, alors dont le véritable nom est The Limits to Growth, et qui mettait en évidence le fait que la croissance infinie n'était pas possible dans un monde fini en ressources. Il y aura d'autres critiques, évidemment, par la suite. J'en cite deux. Il y a, en 2006, un économiste anglais, Sir Nicholas Stern, qui était à l'époque vice-président de la Banque mondiale, qui a dit « Les pays riches vont devoir oublier la croissance s'ils veulent stopper le changement climatique. » Et plus proche de nous, en temps et évidemment géographiquement, en 2009, il y a une commission qui a été nommée par le président Nicolas Sarkozy lui-même, la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, qui a abouti au rapport Stiglitz, qui a dit que le PIB ne pouvait pas être le seul indicateur de performance économique et de progrès social. Et ça a été un peu perdu depuis comme citation de Nicolas Sarkozy, mais c'est lui-même qui a dit « la croissance détruit plus qu'elle ne crée ». Je crois que c'est quand même un des meilleurs avocats de l'abandon du PIB comme indicateur de performance d'une société. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres économistes qui ont critiqué le PIB et la croissance. Il y a Herman Daly, Tim Jackson à l'étranger, puis en France, Serge Latouche, Dominique Médaille, Loi Laurent, Gaël Giraud, Timothée Parik, pour ne citer que ceux-là. Donc le PIB est définitivement pas un outil pertinent pour mesurer l'activité économique, mais surtout dangereux.
Alors, mais ce qui est relativement dingue, c'est que les premières critiques datent de près de 50 ans. Et puis, comme dirait une actrice célèbre dans un film qu'on a tous vu ou qu'on verra très probablement, à un moment donné, elle dit « ne les croyez pas, ils vous promettent autre chose, ils comptent vous faire peur. Avancez, tête baissée, consommez, produisez et continuons à aller de l'avant comme ça pour notre soi-disant bien-être et notre croissance. » sens. Et effectivement, si on renvoie aux temporalités politiques, j'ai l'impression qu'effectivement, on est dans cette croissance à tout prix, à travers les différents plans de relance qui peut arriver, la France 2030, etc., etc. Et si on met ça en écho avec la présentation de Fanny sur la grande accélération de la consommation et de l'utilisation de l'énergie, comme dirait l'autre, j'ai l'impression que il y a un lien très fort. Et du coup, comment se passe ce lien? Donc, on a commencé à évoquer aussi la question du découplage. Qu'est-ce qu'on peut en dire concrètement? Y a-t-il vraiment une possibilité avec le découplage ou pas?
Alors, avant de répondre à la question, David, permets-moi de faire peut-être un petit rappel sur l'interdépendance qui existe entre la croissance du PIB et l'énergie. Fanny l'a rappelé dans sa présentation, je vais le rappeler aussi. Il faut effectivement rappeler que l'activité économique, en réalité, c'est rien d'autre que la transformation de matières premières en biens et services. Or, cette transformation suppose de l'énergie, nécessairement. Alors, avant la révolution industrielle, hein, qui a eu lieu il y a 150 ans, c'était les humains, les animaux, les énergies renouvelables déjà, le bois, le vent, les rivières, qui fournissaient l'essentiel de l'énergie. Depuis, ce sont des machines, alors, tout simplement car elles dégagent beaucoup plus de puissance, hein, et elles travaillent beaucoup plus que nous, elles ne réclament pas plus d'argent quand elles travaillent jour et nuit, elles ne se mettent pas en grève, voilà, mais le fait est que ces machines utilisent de l'énergie. D'ailleurs, on peut constater, je vais vous montrer un petit graphique, cette interdépendance, ce couplage, pour reprendre le terme que tu viens d'employer, entre croissance du PIB et consommation d'énergie sur les 150 dernières années. Alors là, j'ai un graphique à 30 ans. Ce que dit ce graphique, hein, c'est qu'il y a un parallèle très net entre la croissance du PIB d'un côté et la consommation d'énergie. Une fois que j'ai dit ça, il faut aussi que je précise que l'essentiel des énergies qui sont utilisées sont des énergies fossiles. Comme Fanny l'a rappelé, en réalité, on fonctionne avec une économie qui fonctionne avec de plus en plus d'énergie, dans le sens où on a, en termes de volume, de plus en plus d'énergie consommée. Pour vous donner un chiffre, hein, en 2019, selon un rapport de British Petroleum, qui date, lui, de 2020, les trois principales sources d'énergie dans le monde étaient le pétrole, pour 33%, grosso modo, le charbon pour 27% et le gaz naturel pour 24%. Alors, c'est moins que l'année d'avant, en 2018, mais en volume, encore une fois, comme le disait Fanny, étant donné qu'on a de plus en plus besoin d'énergie pour faire de plus en plus de produits, on additionne en volume toutes ces énergies. Et cette interdépendance, ce couplage entre croissance du PIB et croissance des énergies fossiles, a une conséquence, vous la connaissez toutes. C'est le fait qu'il y ait une hausse du stock de gaz à effet de serre, calculé en équivalent CO2. Et évidemment, cette hausse du stock de gaz à effet de serre, la conséquence, c'est que ça aboutit à une hausse généralisée des températures. Car dans le même temps, en plus, on utilise, enfin, ou plutôt, il y a aussi beaucoup d'émissions d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane, le protoxyde d'azote, et qu'on continue aussi à déforester. Donc, tout ça pour dire que plus de croissance égale plus d'énergie. Mais malheureusement, il n'y a pas substitution entre les énergies qui seraient à haute teneur en carbone et les énergies bas carbone. Tout augmente en même temps et ce faisant, le stock de gaz à effet de serre augmente.
Le découplage.
Voilà le découplage entre croissance et émissions de gaz à effet de serre. Alors, il faudrait un découplage absolu et non pas relatif. Alors, c'est quoi la différence? C'est le fait que le découplage absolu, les deux variables soient indépendantes. C'est-à-dire que quand le PIB augmente, eh ben, le stock de gaz à effet de serre peut diminuer. Or, en l'occurrence, on est actuellement dans un découplage relatif, actuellement, et ça va durer, dans un découplage relatif, c'est-à-dire que le PIB mondial augmente de 2,8%, par exemple, et les émissions de CO2 augmentent de 2,1%, ce qui ne suffit pas. Il faut que le découplage soit mondial également, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça se déroule qu'en France ou qu'en Europe, ce qui a été le cas pendant pas mal de temps à cause de la désindustrialisation. En fait, on a connu un découplage absolu en France, mais c'était tout simplement parce que nos émissions de gaz n'étaient plus domestiques. Elles étaient faites ailleurs. Donc, le découplage doit être mondial et non pas seulement localisé. Il doit être total aussi, hein. Ça ne doit pas être seulement les gaz à effet de serre, enfin, plutôt le CO2 qui doit diminuer, mais tous les gaz à effet de serre. Et on doit aussi préserver en quantité et en qualité les puits de carbone. Et évidemment, il doit être pérenne et rapide. Pérenne, évidemment, il faut que ça soit durable, mais rapide parce que tant qu'on n'a pas réglé le problème de cette augmentation du stock de gaz à effet de serre, il augmente et il provoque des hausses de température sur des temps longs. Je vais montrer l'équation de Kaya. Si je devais commenter cette équation, qui est une équation tautologique, hein, tautologique dans le sens où si on enlève tous les termes, on arrive à CO2 égale CO2. En fait, ce pourquoi je vais utiliser cette équation, c'est que vous avez entendu évidemment tous parler de cette fameuse croissance verte, sauf que cette croissance verte, cette fameuse croissance que beaucoup de nos gouvernants aimeraient nous vendre, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Il faut rappeler qu'on doit arriver à la neutralité carbone en 2050 et que pour ceci, grosso modo, les émissions de gaz à effet de serre doivent diminuer de 7% par an. Donc ça, c'est le terme de gauche. Ensuite, les gouvernements font tout pour que le PIB augmente. Donc ça, c'est les deux premiers termes, population fois PIB fois POP. Hein, on va dire que tout ça, c'est le PIB. Donc, ça veut dire qu'on a d'un côté des émissions de gaz à effet de serre qui doivent baisser de 7%, et de l'autre côté, on a le PIB qui augmente, on va dire, de 1, 2, 3%. Ça veut dire que c'est les deux derniers termes, qu'on appelle la technologie au sens large, qui doivent diminuer pour compenser justement cette croissance et arriver à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a deux termes, l'intensité énergétique de l'économie et l'intensité carbone de l'économie. Pour faire court, l'intensité énergétique, c'est le fait qu'on ait des technologies qui consomment de moins en moins d'énergie pour produire nos produits, enfin pour une unité de valeur. Et l'intensité carbone de l'économie, c'est le fait qu'on utilise de moins en moins d'énergie fossile. Alors en fait, la croissance verte qu'on nous vend, elle est quand même, comme vous l'aurez compris, très audacieuse, pour ne pas dire mensongère, dans le sens où en fait, pour arriver à 7% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, ça suppose des solutions techniques qui n'existent pas et qui n'existeront probablement pas. On ne peut pas diminuer durablement l'intensité énergétique dans le sens où, à un moment, on arrive à un plafond ou un plancher, ça dépend comment on prend les choses. Et puis, comme l'a dit Fanny, il y a des effets rebonds, c'est-à-dire qu'une voiture plus sobre en énergie permet de faire plus de kilomètres, etc. Et sur le plan de l'intensité carbone, donc on nous vend aussi l'énergie renouvelable comme étant la solution. En réalité, le fait d'utiliser de l'énergie renouvelable, ça va avoir des impacts sur d'autres, sur le prélèvement en minerais, par exemple, sur le prélèvement en eau. Et en réalité, la vraie solution, quelle est-elle ? C'est évidemment la sobriété, on va dire la décroissance, pour mettre les pieds dans le plat. Et ce qui compte, pour conclure, ça n'est certainement pas les 2% de croissance ou les 2% d'inflation, mais bien les 2 degrés de hausse de température. Et donc, les solutions techniques qu'on nous vend, et on le voit à partir de l'équation de Kaya, ne suffiront pas. Donc, il va falloir jouer sur les autres termes.
Merci Philippe pour ta présentation. Et effectivement, on comprend qu'être omnibulé, être drogué à la croissance et au PIB, c'est effectivement du donc don't to club, si je peux faire un petit clin d'œil, par rapport à l'urgence écologique totale et au réchauffement climatique et les conséquences qui peut y avoir. Et on voit bien à travers cette équation de Kaya les choix de société aussi qui peuvent s'en découler quant aux opportunités possibles.